verset 1, c'est-à-dire le début de la paracha de Miketz. D'accord ? Alors allons-y. Pour moi, ça a toujours été la paracha de Madame Bamberger.
Pourquoi ?
Ah, parce que... Miketz. Bah oui.
Miketz.
Bon, mais ça, c'était moi. Je ne l'ai jamais dit à personne. Hein. Ouais, oui. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vaï Miketz Shenataim Yamim Uparo Cholem Veine Omed Alayeho. Donc, où avons-nous laissé l'histoire ? Yosef est toujours dans la prison. Il n'est pas sorti du trou. Il est toujours dans la prison. Le grand échanson a repris ses fonctions. Le panetier a été tué. Et effectivement, il a un petit peu oublié. OK ? Mais, rappelez-vous de ce qu'on avait dit, le juif est contagieux.
C'est grave.
T'as vu ? Quoi ?
Oui, mais il mettait ça dans les tournois.
Le juif est contagieux.
Il mettait ça en grand titre.
Mais bien sûr, voilà une bonne phrase antisémite. Après les excuses de Dieudonné, je peux bien faire une phrase antisémite. Donc, le juif est contagieux, c'est-à-dire, le juif rêve. Le juif rêve depuis le début du livre de Bereshit. Or, le rêve, c'est le moyen de Dieu de s'adresser à l'homme. Et on voit que, eh bien, lorsque Yosef, bon, lui, on connaît, c'est le roi des rêves, lorsqu'il est en prison avec les deux autres, eh bien, tout d'un coup, les deux autres se mettent à rêver. Ensuite, il y en a un des deux qui a chopé le virus, qui est parti retrouver son poste auprès de Pharaon, et au bout de 2 ans, tout d'un coup, c'est Pharaon qui se met à rêver. C'est-à-dire que ça se transmet, cette capacité de faire un rêve qui va être autre chose que simplement un rêve. Oui, parce que tout le monde rêve, c'est pas le problème. L'erreur serait de vouloir interpréter tout le temps ses rêves. C'est-à-dire, quand quelqu'un va se coucher et qu'il rêve, il ne va pas forcément se sentir émoustillé par son rêve. Des fois, quand il y a un rêve, il revient. Alors, peut-être qu'il faut se poser des questions, mais de manière générale, de toute façon, sachez que les rêves que vous faites le vendredi soir, la Gemara nous dit de ne pas y prêter attention quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Bah oui, c'est sûr que tu as trop mangé, donc forcément, ça n'a rien à voir avec rien, c'est tu as trop mangé. En tout cas, ici, le rêve veut dire quelque chose. Ça fait 2 ans, et là, Pharaon se met à rêver. Mais attention, ce rêve-là est d'une simplicité à comprendre qui est déconcertante. Veine minayor olot sheva parot yefot mar'e ubriot basar vatir'ena ba'achu. Nous avons 7 vaches pleines de vie, très jolies, pleines de viande, qui sortent du fleuve. Veine sheva parot acherot olot achareen minayor ra'ot mar'e vedakot basar vata'amodna etzel aparot al sefat ayor. Il y a d'autres 7 autres vaches qui arrivent, qui sont toutes moches, toutes maigres, et qui sortent du fleuve. Vatochalna aparot araot amar'e vedakot abbasar et sheva aparot yefot amar'e vebriot veaberiot vaikatz paro. Les vaches maigres ont mangé les vaches grasses et Pharaon s'est réveillé en sursaut. Oy vavoy. Bon, il a été se faire un café et il retourne se coucher. Et là, vaishan, vayachalom shenit, veine sheva shibolim olot bekane echad briot vetovot. 7 épis de blé sont en train de pousser et sont magnifiques. והנה שבע שיבולים דקות ושטופות קדים צמוחות אחריהם. צמוחות, סליחה. יעשה תודך אפי, תו מוש, תו רפלפלה, כיפוס אפריהם. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרו והנה חלום. להוסי לסט אפי, תו מוש, אבל לסט בוז אפי, פרעון סורבי.
C'est pas si évident que ça.
Bah attends, comment ça c'est pas évident ? Comment pourrait-on résumer le rêve de Pharaon ? Très simplement, il rêve qu'au début...
La situation est bonne.
Et quelle situation ?
Économique.
Économique, il n'y a pas d'autre chose.
Non, c'est pas économique.
Non, mais l'agriculture.
Alimentaire.
Alimentaire.
Alimentaire, oui, l'agriculture, oui.
Il y a plein à manger. Et après,
il n'y a plus rien.
Il n'y a plus à manger. C'est pas shoot.
Pourquoi ? Parce que les maigres, elles peuvent s'engraisser avec les gros.
Ben non, on voit qu'elles ne se sont pas engraissées. Ils les voient toujours maigres.
C'est pas marqué.
Ah, c'est pas marqué. Donc on ne peut faire qu'avec ce qu'on a. Toi, tu me fais la suite. On n'a pas la suite. Donc d'après ce qu'on voit, Qui a gagné entre les sept grosses et les sept petites? Les sept petites. Donc, il y avait beaucoup et il n'y a plus. C'est pas shoot. Et on parle du manger. Que ce soit les vaches. Alors, pas tant que les Égyptiens mangeaient de la vache, mais le lait. Le fromage, qui était une des bases de l'alimentation. Et les épis de blé, le grain. Ça y est ? Donc, c'est mode pas shoot. Il a rêvé qu'il y aurait plein et qu'après, il n'y a plus. Entre parenthèses, la vache, dans la culture égyptienne, symbolisait la reine, enfin la déesse Hathor, la déesse de l'amour et du cycle, donc également du temps et de l'année. Donc le même hiéroglyphe en hiéroglyphe désigne la vache et désigne également l'année. C'est une vache. Donc ça veut dire qu'il rêve qu'il y a sept vaches, donc sept ans, où il y a beaucoup à manger, et ensuite 7 ans où il n'y a pas beaucoup à manger.
Alors c'est étonnant que les Khartoumim...
C'est pas shoot. Ah, il est, regarde, ah ouais. Il y a marqué.
Il a fait venir tout le monde. Il a fait venir les grands.
Quoi ?
7, oui, mais...
Parce que je viens de te dire que le hiéroglyphe à l'époque de la vache signifie également une vache et également l'année.
Ah, c'est l'année.
L'année.
D'accord, j'ai compris que c'était le temps. Alors,
je vois que tu n'as pas révisé ta pierre de Rosette avant de venir. C'est un vrai scandale. Ah, franchement. D'ailleurs, la pièce de Rosette, on pense qu'on l'a bien traduit, mais on n'en sait rien, en fait. Toutes nos traductions d'hiéroglyphes, c'est que des suppositions, parce que...
Oui, c'est comparatif.
Ben voilà, c'est une comparaison de plusieurs choses. Non, nous, on fait avec ce qu'on a. « Vaïba boker, vatipaem rucho, vaishlach vaikra et kol chautume mitzraim, et kol chachamea, vaisaper parolaem et chalomo, ve'en poter otam le paro. »
Peut-être qu'il ne voulait pas lui dire.
Oui. Alors,
comme les adjoints de Poutine qui n'osent pas lui dire la situation.
Que quoi, qu'il a perdu?
Non, mais il n'ose pas lui dire.
Qu'il a perdu, il n'ose pas lui dire qu'il a perdu.
Ouais, ouais.
Il a pas perdu.
Ou qu'il ne fallait pas y aller, ou tout ce qu'on fait.
Maintenant que l'Ukraine va recevoir les chars Leclerc.
Ah bah oui,
ah, ouais. Mais
les avions,
ils amènent, ils ont des avions?
Non.
Je ne sais pas si c'était prévu.
Ils ne donnent pas les avions.
Ils ne donnent pas les avions? Non, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Biden a dit « no ».
Ah, il a dit « no » pour les avions ?
« No ».
Bon, il dira « oui » plus tard. Hein. Mais c'est ça. Bon, en tout cas, il amène tous les Khartoumim et personne n'arrive à donner de réponse. C'est-à-dire, il s'appelle « l'aim et halomo ve en poter otam le paro ». Alors, lui, il leur racontait combien de rêves ?
Deux.
Ben, sauf qu'il y a marqué « il s'appelle et halomo ».
Premier,
il n'y avait pas marqué le premier.
Enfin, un
rêve. C'est son rêve.
Son rêve. Mais c'était un rêve, peut-être.
Alors, on a vu qu'il s'est réveillé entre eux. Il a marqué qu'il s'est réveillé entre les deux. Alors, lui, il a compris que c'était un rêve. Eux, ils ont compris que c'était deux rêves. Ven poter otam.
Ah,
ok ? Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, entre autres. Mais encore une fois, ça ne nous aide pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas compris quelque chose d'aussi simple que nous on l'a compris, on n'est pas Khartoum. Eh bien en fait, c'est très simple à comprendre pourquoi ils n'ont pas compris. Le rêve de Pharaon indique une famine.
Ils n'ont pas osé le dire.
Non, c'est pas concevable.
Ouais.
Non, c'est pas qu'ils n'ont pas osé. Voilà, comme tu dis, c'est pas concevable. Il ne peut pas y avoir de famine. En Égypte, il n'y a pas de famine.
Il y a le Nil.
D'ailleurs, dans le livre de Bereshit, dès qu'il y a une famine en Eretz Kenaan, où est-ce qu'on va ? En Égypte. Et donc, ça veut dire quoi ? Il y a le Nil. Ben, il n'y a pas besoin de pluie. Le Nil, il a sa crue tous les ans, depuis que le Nil existe. Donc là, tu es en train de me dire qu'il y a une famine ? Ça veut dire que le Nil arrête de marcher ? C'est pas possible. Ok ? C'est-à-dire que...
Si on regarde ce qui s'est passé après, on peut...
Ah bah,
d'abord... Quand Yosef lui a révélé, truc, on a Pharaon qui dit « Oh, quelqu'un a déjà vu un type aussi intelligent que ça ?»
Et bah attends, on va voir.
Alors que, malgré tout... Ouais.
Là, les Égyptiens sont incapables d'imaginer l'idée qu'il y aura une famine. Parce que naturellement, il n'y a pas de famine en Égypte. C'est-à-dire, c'est toute la grande différence que vont nous dire les prophètes entre la terre de Canaan, Eretz Israël, et la terre d'Égypte. Qu'en Eretz Israël, tu dois prier pour la pluie. D'ailleurs, il y a la semaine dernière, il y a 10 jours, la rabbanoute, elle a dit, il faut commencer à faire la bracha pour les jeunes parce qu'il ne pleut pas assez. Bah, on a bien bossé. On a bien bossé, qu'est-ce que je te dise. Ça a l'air. Donc, c'est pas possible. En Égypte, il pleut pas, mais on s'en fiche. Il y a le Nil. Donc, comment c'est possible une famine? Vaidaber Sara Mashkin et Paro les morts. Et Rataay animaskir ayom. Donc, il rappelle le fait qu'il a fauté, que Pharaon s'était énervé contre lui. Paro katsaf al avada vaiten oti bemishmar bet sara tabachim oti vet sara ofim. ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא, איש כפתרון חלומו, חלמנו. Il rappelle les événements, il était en prison, et là-bas il était avec un autre, et ils ont rêvé. ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים, ונספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. Bah, il était le serviteur de Potiphar.
Potiphar, il était Sarah Tabachim. Oui. C'est Potiphar qui était en prison.
Ah ben non.
Ah, Eved.
Non. Vesham itanu na'ar ivri, qui lui-même est Eved le Sarah Tabachim. Ok. Il était en prison, mais il était quand même toujours la propriété de Potiphar. Maintenant, d'où on sait qu'il est ivri? Rappelez-vous, Potiphar, il l'a acheté de la main des Midianim ou des Ishmaélim plutôt.
Qui lui ont dit
que ça vient des Midianim. Donc d'où il sait? Parce que Yosef lui a dit Gunov gunavti mi eretz ha'ivrim.
Il a dit ça au.
C'est ce que Yosef avait dit au Sarah Mashkin de dire à Pharaon. Donc il lui dit, il y a un Hébreu là-bas. Est-ce que ça va faire tilt chez Pharaon? Il y a un Hébreu, Asma?
Non, il a déjà eu.
Mais bien sûr qu'il connaît les Hébreux. N'oubliez pas que ce Pharaon. C'est un Rixos. Quoi?
D'où il connaît. Ah, c'était, vous savez qu'en Goshen, il y avait des.
Rixos! Vous vous rappelez qu'à l'époque de Yosef, l'Égypte a été conquise par un peuple qui était copain des Sémites, des Hébreux. Non, on ne se rappelle pas?
Non, non.
Alors je vous rappelle, je vous aide. Au XVIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire à l'époque de Yosef, l'Égypte devait être conquise par un peuple, les Hyksos, Rixos. Ok, des peuples venus de l'est, de l'ouest, etc. Ils vont venir, ils vont conquérir l'Égypte. Et pendant une centaine d'années, ils vont régner en Égypte sur le peuple égyptien. Ils vont dégager les familles égyptiennes aristocrates et pharaoniques, et ils vont prendre le pouvoir. À ce moment-là, Yosef arrive. Mais Yosef est un Hébreu, ou alors, du moins pour la façon dont on le présente à l'époque, un Abirou. Oui, car le peuple des Hébreux, c'est un peuple que nous connaissons dans l'archéologie, qui s'appelle Habirou. Ou Abirou en français. Et il y a des liens entre les Rixos et les Abirou. Donc, il dit, il y a un art ivri. Ah ben, ça fait tilt chez moi.
Comment tu sais qu'il y a des liens?
Ah ben, parce qu'on a des trouvailles archéologiques, on a des textes, oui. On a. Oui, bien sûr. C'est pas marqué d'une part dans la Torah. Ok? Par exemple, il y a le livre Contrapion. Tu te rappelles?
Oui, oui, je connais que celui-là.
Non, tu connais aussi quelques Tintins. Quoi, Contrapion? On a déjà parlé plein de fois.
Il y a pour Apion, il y a pour.
Alors, je ne connais pas le pour Apion. Apion était un antisémite notoire, classique, j'allais dire, mais sauf que c'est un des premiers, au 1er siècle. D'accord? C'était un prêtre égyptien helléniste. Il habitait à Alexandrie, mais il était helléniste, il était grec, et il s'appelait Apion. Il était foncièrement antisémite et il prônait plein de choses contre les juifs. Et une des choses qu'il avait comme thèse, c'était que le peuple juif, eh bien, n'existe pas. Ou du moins, venait à peine de se créer. Ce n'est absolument pas un peuple avec une grande histoire telle que nous le présentent les juifs dans les différentes provinces d'Europe.
De Joseph, là, avec...
Non, Apion, c'est l'époque, c'est juste avant la destruction du deuxième temple.
Ah, c'est beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard. Alors, pour répondre à ce Apion, qui crie sur tous les toits ses problèmes, eh bien, il y a un monsieur qui va se retrousser les manches, qui habite maintenant à Rome, et qui va dire, bon, je vais expliquer où il se trompe. Ce monsieur s'appelle Yosef ben Matityahu, allo, Yosefus Flavius, Flavius Joseph. Flavius Joseph va donc répondre à Apion dans son livre Contre Apion, et toute la première partie du livre, c'est pour répondre à la première Tahana, de dire, les Juifs, ça vient d'arriver. Et donc, il va citer tous les textes antiques, hors Torah, qui parlent de nous. Et quand je te dis antique, je te parle antique par rapport à lui.
Bien sûr.
Donc pas de son époque.
C'est dans quel livre de Flavius Joseph, ça ?
Ben, je viens de te le dire. Contre Appion.
Ah, il s'appelle Maman.
Oui, oui, Contre Appion. C'est un petit livre que tu trouves en français. Contre Appion. Alors, c'est la première partie du livre est extrêmement rébarbative. Extrêmement saoulante à lire parce qu'effectivement, il cite des textes très très vieux avec un français, moi je l'ai lu en français, un français terrible. Et, mais ça a le mérite de citer tous des textes où on nous répertorie. Et c'est pas des textes juifs, quoi.
Et c'est des textes qu'on peut retrouver par ailleurs.
Oui, quand tu vas à la bibliothèque.
Non, quelqu'un qui fait une recherche.
Une recherche extrêmement spécifique dans des textes archéologiques, quoi.
C'est ça. Si lui il les a trouvés, ces textes, il doit être.
D'abord, lui, il avait quand même vachement moins de temps qu'il le séparait des textes. Des textes de 500 ans, tout ça, c'est quand même moins long que 2500 ans. Mais, effectivement, il y en a qu'on a aujourd'hui. Les écrits de Tel El Amarna, on les a retrouvés. Les écrits de Mernaftar, on les a retrouvés. Donc, il y en a plusieurs qu'on a retrouvés. D'accord ? Donc, eh bien, ce pharaon, tout d'un coup, il entend qu'il y a un hébreu, ça lui fait tilt. Vaiftar lanu zecha et chalomotenu, ish ke chalomo patar. והיא כאשר פתר לנו כן היה, אותי ישיב על קני, ואותו תלה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויריצוהו מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. ואשר שיוסף, הוא ידיד סופרי פרעה, אהו ניבה.
Il
n'est pas sorti du bord.
C'était la rotonde.
C'était la prison, c'était le bord. Il était au trou.
Au trou, mais c'est pas simple. Enfin, il aurait pu être dans une chambre, dans un truc. Enfin,
bah, je comprends pas.
De nouveau dans un bord, c'est ce que je veux dire.
Ah, tu dis par rapport au bord. D'accord, moi, ça serait une question. Voyons un paro, El Yosef. Chalom chalamti. Upoter enoto. Vani shamati alecha lemor. Tishma chalom liftor oto. Pareil que t'es doué là-dedans. Vayan Yosef et Paro. C'est son joker, ça y est, il va pouvoir sortir de prison. Il aurait pu lui dire, écoute, on fait un deal. Je te donne mon rêve et tu me sors de là et tu me donnes de l'argent. Mais non, Yosef, il joue la carte franco. Et il dit, non, c'est l'Oani. Biladai. L'Oani. Elohim yanet shlom Paro. Voilà, déjà, tu sors la carte Dieu ?
Il dit peut-être pas grand-chose à parents.
Imaginez, il y a le corona. Imaginez, il y a une épidémie tout d'un coup qui frappe l'Europe, le monde. Et imaginez, il y a quelqu'un qui monte à la tribune et qui dit, c'est la punition divine.
Oh, il y en a qui ont bien dû dire
ça. Oui, bien sûr.
Et comment on les a reçus ?
On les reçoit très mal.
Très mal.
Oui.
Alors imaginons autre chose. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit, il monte à la tribune de l'ONU, et il dit, Israël m'appartient parce que c'est la promesse divine.
Ben oui, c'est mal fait, pareil.
Ah mais personne ne le fait. Pourquoi on ne le fait pas ?
Parce qu'on ne sera pas grave.
Parce qu'on se dit que si on dit ça, les gens vont nous dire, ah là, c'est qui ces extrémistes ? Yosef, il dit, c'est Dieu, c'est pas moi. Alors, quelle est la différence entre lui et nous, bah, l'oreille qui écoute. Pharaon, quand on lui parle Dieu, ça lui parle.
Oui, mais on a plusieurs.
Ben voilà. Aujourd'hui, l'Europe occidentale, ça lui parle moins. Mais l'erreur que font nos dirigeants, c'est qu'ils pensent qu'ils parlent à l'Europe occidentale. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais à l'ONU, l'Europe occidentale ne représente rien. Or, le monde occidental est représenté par les États-Unis pour qui Dieu, ça parle.
Il y a une Bible dans tous les.
Non, mais c'est pas seulement qu'il y a une Bible. C'est... Oui, non, mais c'est quelque chose qui est profond chez eux. Donc peut-être que si on parlait un peu plus de Dieu dans l'histoire, les choses pourraient évoluer. Ouais, enfin, c'est le rabbin qui parle. Mais d'abord, parole à Yosef, Bechalomi, Neni, Omed, Al-Sefat, Ayehor.
C'est pas tout à fait construit.
Nachon. Nachon.
Al-Ayehor.
Nachon. Alayor, ça veut dire je suis sur le fleuve. C'est-à-dire je me prends pour Dieu. Là, il lui dit Al-Sfat Ayor. Pourquoi il lui dit ça? Parce que Yosef vient lui dire, non mais oh, moi je sais qui c'est Dieu. Tu ne peux pas me la jouer à moi. Donc il lui dit, ok, Aniomed Al-Sfat Ayor. Ok. והנה מן היאור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר ותירנה באחו והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהם דלות ורעות תואר מאוד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע פרות הראשונות הבריאות ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהם רע כאשר בתחילה, ויקץ. אבא תיאן, il a donné la suite de ton rêve. Tu te rappelles, c'est dit tout à l'heure, on n'a pas la suite? Iné, elle est là, la suite. Et il lui dit clairement, personne ne pouvait se rappeler qu'il y avait eu un jour des vaches grasses. Parce que les vaches maigres les ont mangées, et elles sont restées toujours aussi maigres. Ok? Et je me suis réveillé. ויראה בחלומי והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד מלאות וטובות והנה שבע שיבולים צנומות ודקות שדופות קדים צומחות אחריהם ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות ואומר על חרטומים ואין מגיד לי j'ai fait des deux rêves j'ai demandé à tous mes mages אין מגיד לי ואומר יוסף אל פרו חלום פרו אחד הוא. פקום מחרטומים כי אבי פנסק ינבי דו. חלום אחד הוא. את אשר האלוהים עושה יגיד לפרו. הפרו אלה בזו אלה בזו אלה פר דו. פרו אלה פי דו רב, סיסי למם. פור מונטרי la le comment dire la c'est évident c'est deux secondes c'est dans deux secondes c'est pour montrer la rapidité de l'événement c'est très urgent d'accord éminent
le fait qu'il est
imminent
imminent et oui j'ai fait un mix entre émanant et imminent j'ai dit deux fois imminent et je me suis dit ça sonne pas bien il y a un truc qui bug imminent évidemment ok שבע פרות הטובות, שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הטובות, שבע שנים הנה, חלום אחד הוא, ושבע הפרות הרכות והרעות העולות אחריהם, שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הריקות, שדופות הקדים, יהיו שבע שני רעב. הוא הדבר אשר דיברתי אל פרו, אשר האלוהים עושה הראה את פרו. הנה שבע שנים באות, סבא גדול בכל ארץ מצרים וקמו שבע שני רעב אחריהם ונשכח כל הסובה בארץ מצרים וקילה הרעב את הארץ ולא יוודע הסובה בארץ מפני הרעב ההוא אחריכן כי כבד הוא מאוד ועל donc il a dit voilà c'est cette année d'abondance cette année de famine ועל ישנות החלום אל פרו פעמיים Le fait que tu as rêvé deux fois. C'est imminent. Ok ? Top. Ben voilà, c'est bon, je peux rentrer. J'ai raconté l'histoire, j'ai dit ce que ça voulait dire. Seulement, il ne s'arrête pas là.
Non, il veut donner des aides tout de suite.
Ah ! Ça ne s'arrête pas là. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il est. Ve'ata. Yere paro ish navon vechacham veishiteu al eretz mitzrayim. יעשה פרו ויפקד פקידים על הארץ וחימש את הארץ את ארץ מצרים בשבע שני הצובע ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה ויצברו בר תחת יד פרו אוכל בהרים ושמרו והיה אוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים ולא תיקרת הארץ ברעב C'est-à-dire qu'il donne le problème et la solution du problème. Et à ce moment-là, quel rapport ? Il vient de montrer qu'il était un grand économiste. En fait, c'est pas ça qui l'intéresse, Pharaon.
Non.
Des économistes, il y en a plein. Il aurait pu prendre Potiphar, Sarah Tabachim, grand intendant. C'est son rôle, a priori. Mais en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le fait d'être un grand économiste.
C'est d'avoir compris.
C'est d'avoir Ruach Elohim.
Ah ouais.
Puisque c'est quelque chose qui vient de Dieu, alors il me faut quelqu'un qui comprenne la volonté de Dieu.
Il vient de ce Dieu.
Oui. Hein?
Paro, il ne sait pas qui c'est, ce Elohim.
Est-ce que Paro ne sait pas qui c'est Elohim? C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, on parle de Elohim.
De la nature.
Est-ce qu'on pourrait l'assimiler aux divinités égyptiennes de la nature? Quand Moshe va arriver, il va lui dire que Dieu l'a envoyé, Yud-Kevav-Ke. Alors il dit Mi Hashem Asherishma Bekolo, mais le Midrash nous dit qu'il va envoyer ses mages pour aller chercher dans le grand livre des dieux. Est-ce qu'on le connaît, ce Yud-Kevav-Ke? Et ils disent qu'ils ont trouvé que c'est un des anciens dieux et que sa Mida, c'est Mida Tadin. C'est pas exactement ça. Ou alors, il y a eu un bug. Rappelez-vous qu'il y a eu un autre pharaon dans l'histoire, celui d'Abraham.
Oui.
Et qui s'est révélé à lui pour lui dire de rendre Sarah?
Dieu.
Quel nom? Elohim. Oui. Donc, quelque part, il a dû être répertorié. Donc, oui, Elohim, ils connaissent. Ils connaissent. Et donc, il comprend bien que le mec qui connaît et qui essaie de comprendre la volonté de Elohim, c'est lui que je dois mettre à la tête de tout le monde. Pas shoot. Imaginez-vous, demain, on a un problème économique et on se dit que celui qui peut nous sauver, c'est celui qui parle avec Dieu.
Enfin, c'est quand même Dieu pour Pharaon, parce que c'est il a tellement de dieux lui que.
Il aurait pu en libérer un.
Pour oui, c'est difficile d'accepter qu'il y ait un dieu complètement extérieur à tous ces nubis, ces machins et trucs. Que ce soit un dieu extérieur.
Alors justement, nous on pense en monothéisme inversé. C'est-à-dire qu'on se dit que sous l'influence du monothéisme, on se dit nous on a un dieu et peut-être les autres à l'époque ils avaient leur dieu à eux et que les dieux étaient en compétition les uns avec les autres. C'est pas le cas.
Et... Ils n'étaient pas en compétition puisque chaque dieu avait son.
Oui, mais comment est-ce qu'on a. Alors, c'est pas exactement ça en Égypte. Alors, oui, chacun a sa spécificité, mais chacun a sa zone.
Oui.
C'est-à-dire, non, mais pas que qu'il y en a un qui est le dieu du soleil, l'autre de la pluie, machin. Non, il y avait des villes où le protecteur de la ville, c'était tel ou tel dieu.
Oui.
C'était le chef de la ville, mais. Il y avait quand même des temples d'autres divinités. Donc ça veut dire que dans la culture égyptienne, j'ai pas de problème de faire rentrer un nouveau dans l'histoire.
Ah.
Ça me dérange pas. Au contraire même. Il deviendra un nom égyptien. Ça, on va transformer, en Eloïs. Donc ça te dérange pas. Mais il dit, moi j'ai besoin de quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu. Est-ce que ça suffit? C'est pour ça que je reviens sur mon exemple. Imaginons qu'il y a un problème économique ou un problème sanitaire ou un problème dans le pays. Et donc, on va prendre un rabbin pour être à la tête du pays. Parce qu'on se dit, ça vient de Dieu, tout ça. Donc, je vais mettre quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu. On va mettre un rabbin.
Mais enfin, chez l'Égypte, c'est quand même un peu différent. Quoi.
Pourquoi?
Parce que le rabbin, il va être quoi? Il va être Satmar, il va être machin, il va être Lubavitch, il va être... Je veux dire que c'est pas...
Ça va être un problème, tu dis.
Ben, bien sûr.
Et
ouais.
Comment?
Quel rabbin?
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez
alors
vu...
Alors que là, le pharaon, il est tout prêt à accepter
ouais, alors, je vais te dire, mais je ne sais pas si vous avez vu mon mea culpa la semaine dernière. J'ai fait un grand mea culpa sur Internet. Parce que j'ai parlé dimanche... Dans un Dvartora que j'ai donné, la vidéo que j'envoie, j'ai pas envoyé cette semaine parce que j'étais en France et ma connexion internet était très mauvaise. Mais j'avais envoyé un truc où j'avais cité l'anecdote que j'avais eue à Metz Ira Kodesh. Une fois où j'étais en France, Shabbos, donc j'étais à la synagogue, à la grande synagogue de Metz, avec une affluence record de 22 personnes. Et
on avait mis
un record. Bien sûr. Et le rabbin d'Odi Mori, mon oncle, a fait Dvar Torah. Et il a cité dans ce Dvar Torah le livre Or Hayahadut du Rav Yerachmiel Eliyahu Botchko. Bon, il fait un commentaire sur la parasha, très bien. Quand tu sors de la choule, pour ceux qui ont été à Metz, il y a toutes les personnes qui sont garées pas trop loin. Ouais. Et puis il y a 4-5 familles qui vont rentrer à pied chez eux. Et donc tout le monde repart, ceux qui partent à pied repartent vers le même endroit. Et donc, faisant route, un homme qui étudie la Torah toute la journée à Metz, il ne fait que ça. Il est Koilelman.
C'est le seul.
C'est le seul. Bah, il est très content d'ailleurs d'être tout seul. Et...
Il n'y a pas 30
000. Hein. Non, c'est sûr. Et il était très très pas content parce que pour lui, les Botchko, c'était du sionisme de bas étage. C'était pas. Il est Satmer. Je pense à ça parce que tu parlais de Satmer. Et bon, je lui ai dit, c'est quand même bizarre parce que les Askamot du livre. Les signatures qui ont donné la signature du livre, c'est quand même pas rien, puisqu'il s'agit du Chazon Ish, du Briskerouf, du Rabbi de Lubavitch de l'époque, du Chafetz Chaim. Parce qu'en fait, tous les rabbins, les plus grands pontes du fin du 19e, début 20e siècle, ils ont tous été chez les Botchko. Tous. Pourquoi ?
C'était en Suisse, bien sûr.
Parce que c'était dans les montagnes, et que le seul endroit en Europe où tu pouvais aller dans les montagnes, faire une petite retraite et manger cachère et avoir une joule, une baisse midrèche, c'était chez les Botchko à Montreux. Donc tout le monde allait chez les Botchko à Montreux. Et donc, si déjà, le Roche Chivra, il a fait un livre, on va lui donner. Ouais. Alors il dit, non, les Askamot, ça s'invente. Nous, Shoin. Alors je lui ai dit, vous savez, d'après la halakha, normalement, je pense que je devrais vous gifler. Parce que vous venez de manquer de respect à des Talmidei Chachamim, y compris, pas seulement morts, mais y compris ceux d'aujourd'hui. Mais bon, vous êtes beaucoup plus âgé que moi, ça se fait pas, je ne vais pas le faire. Mais je voudrais simplement éclairer votre lanterne sur une chose. Et c'est là que je dois donc faire mon mea culpa, parce qu'à l'époque, j'avais dit la chose suivante. Vous revendiquez d'un chassid Sotmer. Et je pensais à tort que Sotmer, ça voulait dire Sainte-Marie. Satmer en hongrois, je pensais que j'ai dû l'entendre de quelqu'un qu'en français ça faisait Satmer. D'abord, ça aurait très bien pu. Ça aurait très bien pu. Hein, quand on dit en Pologne, la ville de Gour, de Gora Calvaria, c'est le calvaire, c'est le chemin de croix. Donc ça aurait très bien pu. Hein. Mais il se trouve que non. Parce que là, je m'avais dit Sainte-Marie, machin, alors que moi, je ne sais pas, mais pas de sionisme de bas étage. Moi, j'habite dans un quartier à Jérusalem où j'habite dans la rue du Rabbi Eleazar Amodaï, le Tana. Et puis, je traverse la route et puis je vais dans la rue de Yehuda, de Shimon, de Lévi, de Issachar, Zvouloun. Et puis, j'ai Rabbi Yehuda Anassi qui descend. C'est un petit peu différent. Bien qu'à Metz, la synagogue se trouve rue du Rabbin Eli Bloch et non pas rue Notre-Dame de Nazareth. Mais il n'empêche... Votre-Dame ou Notre-Dame ?
Votre-Dame.
Votre-Dame ? C'est ça. Chez Eh bien non, il se trouve que Satmar, ça veut dire Satoumaré, grand village.
Ah ouais.
T'as vu ?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Grand village. Écoute, chez Yé. En tout cas, je ne sais pas si le Rabbi, il sera Satmar ou il sera Lubavitch. Mais le problème, il n'est pas là. Yosef n'a pas été choisi que parce que vous connaissez quelqu'un qui a Ruach Elohim comme lui, mais il a été aussi choisi parce qu'il a montré ses compétences, il a donné la solution. C'est-à-dire, non seulement...
Il fait le diagnostic,
parce que Ruach Elohim, bon, mais en plus, il a le bagage. C'est pour ça qu'il est choisi, c'est pas seulement parce qu'il est rabbin. S'il y a un rabbin qui se présente et qu'en plus de ça, il a fait Sciences Po et il a dirigé 27 sociétés, ben très bien, pourquoi pas ?
C'est pour ça qu'on a choisi Moshe.
Et exactement, il peut être aussi rabbin, ça ne me dérange pas. Mais là, Yosef, il a montré ses doubles qualités. Il a montré qu'il était capable de comprendre ce que Dieu voulait de lui, mais il a montré aussi qu'il était capable de gérer l'économie de ce monde. D'accord ? Donc, ce n'est pas simplement une théocratie... on ne réfléchit pas. Donc, il est. Va me parler à Yosef. אחרי הודיעה אלוהים את, אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. מה זה את כל זאת? Après ce que Dieu t'a dévoilé tout cela, il n'y a pas de plus grand sage que toi. C'est quoi être kolzot? Eh bien, c'est et l'explication du rêve et
la solution.
Mais ça, atat yeh al beti ve'al picha yishak kol ami ve'rak akise rak akise egdal bimeka. Tu seras maintenant le préposé sur toute ma maison et il n'y aura que le trône qui sera au-dessus de toi. מה? יישק. הנה. אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי. מלשון נשיקה. כן? ודאי. להשיק. לנשוק. לנשק. על פיך, אופת זה טבוש, כי ותו דיר. פרסון נבוז, סנס כתוע תו עדי. אוקיי? מלטחון סורה סופרורטואר. אנגרוס, זה ודיר כטכניקמן, זה מוע לרוע, מז'ן פרן אוקיין דסיזיון. Pharaon devient à ce moment-là reine d'Angleterre et fait de Yosef son chancelier. Ok? Vayomer paro el Yosef, re natati otecha al kol eretz mitzrayim, vayasar paro et taba'ato me'al yado, vayiten ota al yad Yosef, vayalbesh oto bigdeshesh, vayasem revid azahav al tzavaro. Ça y est, il a été intronisé. Non, pas couronné.
Non, non, il n'est pas empereur.
Il a été couifié.
Premier ministre.
Pas couronné, mais premier ministre. Voilà, on lui met le Zevid Azahav al-Tzavaro. Ça veut dire le fameux l'aigle égyptien sur les épaules, montrant que c'est lui le chalit. C'est lui le patron, le Rosh HaMemshal. Vayarkev oto bemirkevet ha-mishne asher lo. Donc c'est pas sur le trône, c'est pas sur le char de Pharaon. C'est numéro 2. Vaikreu lefanav avrech venaton oto al kol eretz mitzrayim.
Ça veut dire vaikreu lefanav.
Ben vas-y, dis-moi toi.
On l'a appelé. Comment les avrechim, ce qui est étudié à
l'Israël. Ah, voilà, donc c'est ça. Avrech, c'est qui se sont prosternés.
Ah, berech.
Berech. Ok, mais la chaîne berech. ואברר ונתון אותו על כל ארץ מצרים. ויאמר פרו אל יוסף, אני פרו. כפי שהוא סוקלר. זה קודם מול שף. זה קודם פורטון לסבור, פסק יוסף, אוקם מומן נליבר. אילי סרוויטר, מנון דו פרעון. נסיפה אדום ליבר. אני פרו, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. פרסם דבוז' סנטון קונסנטמון. ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח. מה זה? צפנת פענח.
זה la traduction.
Oui.
צפון.
Sauveur de l'Empire.
Ah non.
C'est pas ça?
Ah, pas du tout.
Ah, bah, c'est ce qu'il y a écrit.
צפנת פענח, nous dit Rashi, מפרש הצפונות. ואין לפענח דמיון במקרא.
צפון.
צפון, c'est caché. נכון? Donc, tsafenat, paneach. C'est ou mefaneach et tatsafoun. C'est lui qui a réussi à dévoiler le secret de mes rêves. Ok, tsafenat, paneach. C'est de l'hébreu. Ou c'est de l'égyptien.
Non, c'est pas de l'hébreu.
Alors, à aucun moment, Joseph n'a été libre.
Non.
Aucun.
C'est pour ça qu'à la fin du film, quand il voudra accéder à la requête de son père de l'enterrer en Égypte, il va demander à d'autres gens d'intercéder envers Pharaon pour le laisser partir enterrer son père. Il ne fait pas ce qu'il veut.
Ah oui,
non, c'est vrai. Ok ? Il n'a jamais été. Ve'yosef ben Sheloshim Shana Beomdo Lifne Paro. Oui, Autant pour moi. Je n'ai pas voulu censurer. Voilà. Ve'ikra Paro Shem Yosef Tsafnat Panar Ve'iten Lo Et Asnat בת פוטיפרה, כהן הון, לאישה, ויצא יוסף על ארץ מצרים. הוא לבריוס. הוא לדנקי, אסנת. נבחי לתורה, בת פוטיפרה. מה זה? זה פוטיפר.
Donc
son ancien maître. Et donc sa fille, c'est la fille de la femme de Potiphar.
Oui, donc celle qui...
Ah, donc ça veut dire que finalement, elle n'avait pas tellement tort. Elle n'avait pas tellement tort de vouloir aller avec Yosef. Finalement, c'est sa fille qui va aller avec Yosef.
Oui, il l'avait adoptée.
Parce que toi, tu viens avec le Midrash.
Non, puisque s'il était eunuque, il n'avait pas d'enfant.
Il a peut-être eu un enfant avant d'être eunuquifié. Ah. Puisqu'il a été rendu eunuque que quand il est devenu Sarah Tabarim.
C'est possible.
Ouais. Et donc, finalement, Akol Nishar Bamishpuche. Donc, la fille de. La femme de Potiphar et la fille de Potiphar, même combat. C'est-à-dire ? Donc, très bien. Mais le Midrash, pourquoi il nous dit que c'est la fille de Dina, que c'est Osnat, que ça doit rester dans la famille ? Là, vas-y, Khashoggi.
Parce qu'il a trouvé une fille de... Il a pris de chez nous, il n'a pas trouvé...
Et pourquoi c'est important que le Midrash il nous dise ça ? Pourquoi on ne peut pas se contenter de ça ?
Sans doute, c'est la grand-mère de je ne sais pas qui.
Qui ?
Mais non, Osnat.
Bah, c'est la mère de... C'est pas la grand-mère, c'est la mère de Ephraim et Manassé.
Voilà.
Bah, c'est pas rien. Mais deux secondes, non, mais qu'est-ce que je m'en fiche de savoir qu'en fait c'est vraiment la fille de Dina et que c'est dans la famille? Je m'en fiche, il s'est marié avec Otnat Bat Potiphéra, quoi, il n'y a pas la Torah, qu'est-ce que tu me saoules?
On ne veut pas sacraliser les mariages mixtes.
On ne veut pas sacraliser les mariages mixtes, avec Tzipora il n'y a pas de problème.
Oui mais moi il était déjà un peu proche quand même.
Quoi, il était proche?
Il est trop machin, il a fallu presque se convertir, machin.
Pas à ce moment-là.
Pas au moment où il a rencontré.
Hein, ça va pas, hein? C'est pour ça, on n'a pas essayé de nous dire non, en fait, c'est pas la fille d'Yitro, en fait, c'est la fille cachée de.
Non, il n'y a pas de Midrash.
Il n'y a pas. C'est très important que Yosef il soit tenu par quelque chose qui le rattache à la famille. Parce que sinon, lui, il va partir. Eh oui.
C'est
genre
le mariage mixte.
C'est complètement le mariage mixte. C'est-à-dire que Yosef. Même les noms qu'il va donner plus tard à ses enfants sont des noms qui montrent à quel point il est bien là où il est. Donc il faut bien qu'il y ait quand même quelque chose, ne serait-ce que midrashique, qui le rattache à l'identité de la famille. D'accord ? Vatas ! Non, Vayosef ben Shloshim Shana, Beomdo lifne paro, Melech Mitzrayim. Vayetse Yosef mi lifne paro, Vayavor bechol eretz Mitzrayim. Les grands travaux commencent. Yosef devient Shalit Mitzrayim. Patas haaretz be sheva shene asova lik matzim. C'est-à-dire qu'il va... Kmitza, c'est je prends quelque chose. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va prendre, effectivement, il va commencer les grandes réformes. Il y avait certainement des manifestations dans les rues comme à Paris. Mais c'est quand même Yosef qui a gagné. Comme à Paris, c'est quand même Macron qui va gagner. Quelle est la différence entre une dictature et une démocratie ? La dictature, c'est tais-toi, et la démocratie, c'est cause toujours.
C'est quoi ?
Cause toujours.
Cause toujours.
Non ? Vous n'êtes pas d'accord ?
C'est connu.
Non. ויקבוץ את כל אוכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אוכל בערים אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה ויצבור יוסף בר ככל הים הרבה מאוד עד כי חדל לספור כי אין מספר. Il a rempli les greniers de toute l'Égypte, il y a plus rien à faire, il y a plus. Ben voilà, on est bien là. Ça fait plaisir. Tout va bien. D'ailleurs, tout va tellement bien que Ule Yosef Yulad Shnebanim, Beterem Tavo Shnatarav, Asher Yaldalo, Asnat Bat Potifera, Kohen Hon, Vaikra Yosef Shen Abechor, Menashe, Kinashani Elohim et Kol Amaliv et Kol Betavi. Menashe qui veut dire j'ai oublié, parce que ça y est, j'ai oublié la maison de mon père. Veshem Hasheni, Veshem Hasheni, Kara Ephraim. Qui frani Elohim Beretzoni. Parce que Dieu m'a fait fructifier dans le pays étranger dans lequel j'étais, le pays de ma souffrance. En d'autres termes, ben maintenant je suis très bien ici. Comment est-ce qu'on va réussir à le reconnecter avec ses origines ? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.
C'est l'époque dans laquelle il croyait qu'il n'avait plus aucun rapport avec son père, il croyait que c'était.
Exactement. Exactement.